Pour qui, dis-moi, tu te prends pour qui, furent les premiers mots du Festival d'Avignon, architecture de Pascal Rambert dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Des mots, des émotions, quelques déceptions plus tard, jusqu'au clap de fin, final cut, rideau, mais qui a le dernier mot ?
Pascal Paradou.
La 73e édition du Festival d'Avignon a donc vécu, du moins pour le IN, car le OFF s'autorise comme tous les ans une petite rallonge. Bonjour Olivier Py.
Et bonjour.
Vous êtes directeur de ce festival. Quel est le dernier mot que vous prononcez, que vous formulez ou pas, au moment de la dernière représentation d'un festival? Vous dites quoi? Ouf, enfin, hélas?
Ben non, je dis bravo.
Comme à la fin des spectacles.
Bien sûr, je suis un spectateur parmi d'autres pendant le festival aussi, et j'aime dire bravo aux artistes.
Et des mots entendus sur les scènes ou auprès du public, est-ce qu'il y en a qui vous touchent particulièrement, que vous notez et qui vous font voyer bagage pour les éditions suivantes?
Oh, il y en a énormément, bien sûr, mais dans le spectacle de Roland Houzé, cette simple phrase, dans l'obscurité du temps, chaque génération doit identifier sa mission. La trahir ou y répondre, c'est une phrase qui m'a véritablement bouleversé. Mais j'en ai beaucoup entendu, des phrases qui m'ont profondément changé. À la fin du feuilleton L'Odyssée, il y aura eu comme une fraîcheur d'eau au creux de notre main, et tout commentaire est possible. C'est extraordinaire.
Pour cette édition 2019, vous avez mis l'accent sur les Odyssées. Il a donc été beaucoup question de Homère, mais aussi d'Eschyle, de Virgile. Comment comprendre ce retour au mythe? Parce que vous l'avez voulu en marquant cette thématique sur cette 73e édition. Mais j'ai le sentiment que les artistes eux-mêmes, les metteurs en scène, s'intéressent à cette mythologie et que c'est une forme de rencontre entre eux et vous en tant que directeur.
Oui, mais comment s'étonner qu'on ait besoin des mythes et qu'on ait besoin des grands poèmes? Plus les temps sont difficiles, plus on est inquiet, plus on revient à ces grands poèmes, bien évidemment, et plus ce sont ceux qui éclairent le présent, plus que l'actualité encore. La question de la crise migratoire a été très très présente et de manière très différente. Je me suis rendu compte que le public était très soucieux de ce qui se passait en Méditerranée, beaucoup plus qu'on ne le dit et beaucoup plus que peut-être certains sondages ne l'imaginent. Et de même pour l'Europe, on peut penser qu'il y a une désaffection du peuple pour l'Europe. C'est d'ailleurs une phrase que François Hollande a prononcé lui-même sur un des plateaux du festival où il a fait une apparition.
Oui, parce qu'il était, comment on dit, invité sur la scène comme témoin de Roland Houzé et Laurent Godet. Et
il a eu cette phrase tragique, les classes populaires ont abandonné l'Europe. Alors, je ne le crois pas complètement. Et en tout cas, au festival, on s'est rendu compte que la question européenne a été débattue, centrale et commentée sous la forme d'une espérance.
L'émigration, l'Europe, est-ce que ça fait de ce festival d'Avignon un festival politique?
Bon, il l'est chaque année. Alors,
il y a quand même des éditions plus ou moins marquées.
Oui, enfin, le genre, l'année dernière, on ne peut plus politique. Donc, oui, bien évidemment. Maintenant, encore faut-il s'entendre sur le mot politique, ne pas l'entendre comme politicien. Et encore faut-il s'entendre aussi sur le rapport entre le théâtre et le politique. Moi, je pense que le bon théâtre est toujours politique. Mais le théâtre politique ne fait pas forcément du bon théâtre.
Mais ici, c'est du théâtre quoi? Politique?
Oui, bien sûr, puisque c'est du bon théâtre. Évidemment. Évidemment. Toute l'édition a été traversée par quelque chose de très émouvant. La question de l'histoire individuelle par rapport à la grande histoire. Et en témoigne l'éblouissant spectacle La Maison de Thé, le spectacle chinois, dans lequel on voit à la fin la gigantesque roue de l'histoire broyer le petit salon de thé fait de bois et de papier. Mais cette idée-là était absolument partout. Faustin Lignécoula a raconté l'histoire du Zaïre par les individus, et Pascal Rambert a ouvert la cour en racontant des histoires d'individus mais qui racontent l'histoire de l'Europe. Donc ça a été vraiment central. Donc c'est politique, oui, mais alors dans un sens particulièrement historique.
Alors, vous parliez du spectacle chinois La Maison de Thé, qui a fait beaucoup parler de lui, avec des adorateurs et des détracteurs. C'est la première fois qu'on entendait parler chinois, ou en tout cas qu'il y avait des spectacles chinois au Festival d'Avignon.
Je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'il y en a eu, mais il y a suffisamment longtemps pour qu'on puisse ne pas s'en souvenir.
Est-ce que cela veut dire qu'il y a un renouveau du côté de cette région du monde ou que tout d'un coup votre regard a été porté vers la Chine ?
Je suis allé en Chine plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses en Chine. Il y a un théâtre traditionnel modernisé pour lequel je n'ai pas beaucoup d'appétit. Mais j'ai rarement rencontré un objet comme celui-là et un artiste comme celui-là. J'ai eu l'impression que j'ai rencontré Brecht, à vrai dire. Vraiment un homme qui, tout seul, au fond de sa province, est en train d'inventer un théâtre qui passe à la moulinette la totalité de l'histoire de sa nation. C'est hallucinant, avec une troupe survoltée. Je pense qu'on a là affaire à un des grands, grands génies du XXIe siècle.
Alors, on a entendu parler chinois, on a entendu parler lingala, on a entendu parler bambara. Est-ce qu'un festival international, c'est aussi la diversité des langues qui s'y parlent ?
Oh oui, quel bonheur, quel plaisir. On a aussi entendu beaucoup de spectacles dans lesquels il y avait plusieurs langues. Alors ça aussi, c'est une jouissance particulière, puisque maintenant, les spectateurs sont habitués au surtitrage, ça ne les effraie plus. Et donc, il y a cette jouissance d'entendre plusieurs langues. Et puis d'entendre aussi une langue auquel les Français ne s'intéressent pas plus que ça et qui est le français. Les francophones, on le sait bien, les fous de la francophonie, ils ne sont jamais français.
C'est le spectacle de Gustave Akakpo.
Mais c'est le spectacle assez court puisqu'il dure une demi-heure de Gustave Akakpo dans lequel il fait une sorte d'appel vibrant pour la francophonie. J'ai toujours pensé que la francophonie n'était pas du tout un projet culturel ringard et qu'en tout cas le festival devait aussi prendre sa part de responsabilité dans cette aventure, car c'en est une.
Vous, l'auteur, forcément, le français vous importe.
Bah oui, évidemment.
Mais est-ce que vous êtes francophone pour autant ?
Je suis francophone, bien sûr, bien évidemment. Je m'efforce de parler ce que les Canadiens appellent le français international, ce que les Français préfèrent appeler le français universel, et qui a cette capacité incroyable de précision, d'élégance, de puissance métaphysique, et qui ne se compare pas à l'anglais, qui a d'autres qualités. J'aime aussi beaucoup l'anglais, mais je pense que la diplomatie a besoin du français aussi. Et la poésie, enfin, tout le monde a besoin du français.
Le festival s'est ouvert avec les mots de Pascal Rambert. Il s'est terminé dans la cour, au même endroit, avec de la musique. Remix de la musique du film 120 battements par minute par Arnaud Rebottini. La musique de 120 battements par minute pour le concert événement de la clôture du Festival d'Avignon. Alors, comme tous les ans, Olivier Py, vous êtes aussi présent en tant qu'auteur ou metteur en scène. Et cette année, vous avez signé deux mises en scène, celle d'un texte dont vous êtes l'auteur, L'amour vainqueur, et puis Macbeth, philosophe, d'après Shakespeare. Alors, c'est un spectacle très particulier car vous avez travaillé avec des prisonniers. C'est la cinquième année que vous travaillez avec des prisonniers de la région. Est-ce que le théâtre doit pousser les barreaux ?
Alors je pourrais pas dire ça comme ça, je pense que la prison en tout cas m'a appris à faire du théâtre autrement. Moi vous savez c'est pas un projet social que je fais, c'est un projet strictement artistique, c'est une recherche artistique comme une autre. J'ai décidé de me mettre dans un inconfort, d'aller dans un monde que je ne connaissais pas, en espérant trouver un théâtre un peu différent, et je crois que c'est le cas. Et puis surtout j'ai rencontré des personnes, des détenus bien sûr, mais aussi des personnes de l'administration, et on vit depuis 5 ans cette extraordinaire aventure de faire sortir les prisonniers pour qu'ils jouent au Festival d'Avignon.
Et c'est eux qui ont choisi Shakespeare cette année.
Oui, nous avions travaillé sur Hamlet ensemble, d'ailleurs à leur demande, et puis 2 ans après, quand je leur ai proposé plusieurs pièces, ils m'ont dit non, on veut faire Shakespeare. Je dis pourquoi pas Macbeth. J'ai toujours eu très peur de cette pièce, elle m'impressionne, et puis je me suis rendu compte que je ne la comprenais pas. Mais eux, par contre, la comprenaient mieux que moi. Donc ils m'ont...
C'est-à-dire ?
Ils ont une existence beaucoup plus tragique que la mienne. Donc je crois qu'ils ont plus d'éléments pour comprendre ce que Shakespeare a voulu dire sur la culpabilité, la violence, le meurtre, le sang sur les mains, tout ça. Moi, je comprends cette pièce moins bien qu'eux, mais maintenant je la comprends mieux.
Inconcevable au cœur, impossible à la langue, le chaos a produit son plus parfait chef-d'œuvre. Un meurtre sacrilège a renversé le temple et a tué la vie de la vie même. Debout, debout, sonnez la cloche au meurtre. Le sommeil et la mort se ressemblent vraiment, mais sortez du sommeil et venez voir la mort, et qu'une armée de spectres contemple ce désastre. Banco, Banco, on a tué le roi.
Extrait de Macbeth, philosophe, dans votre mise en scène, Olivier Py. Avec un projet comme celui-là, est-ce que vous voulez aussi affirmer que finalement le théâtre est pour tous, comme le disait Jean Villard, le fondateur du festival, sachant que la question du public est centrale, il est toujours au rendez-vous, mais on fait toujours du théâtre pour un public, c'est jamais du théâtre en chambre.
Mais le travail d'un directeur du Festival d'Avignon, s'il n'est pas qu'un programmateur et qu'il est un directeur, c'est de travailler sur le public, justement. Comme Villard l'a dit, ce que nous avons réussi à Avignon, c'est le public. Moi, je peux le redire chaque année. Peut-être qu'il y a des spectacles qui ont plu, j'en suis heureux, des spectacles qui ont moins plu, j'en suis désolé, et d'ailleurs les avis diffèrent. Mais en tout cas, il y a cette chose-là, cette présence extraordinaire d'un public populaire, encore une fois, contrairement à toutes les idées reçues, et les chiffres le prouvent, et d'un public fervent pour des œuvres difficiles qui n'ont rien à voir avec le divertissement. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à la démocratie, un petit séjour par Avignon.
Alors le in s'achève, mais il y a encore quelques jours, puisqu'il y a des centaines de spectacles dans le off. Par exemple, au théâtre de la Reine Blanche, Le Fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Florian Azoulay a adapté 2 romans écrits à la fin du 19e siècle par cet auteur orientaliste, et cela donne un monologue interprété par Xavier Gallet. Reportage Marjorie Bertin.
Derrière ces barreaux de fer, 2 grands yeux fixés sur les miens, des prunelles vertes, de cette teinte vert de mer d'autrefois. Asiadé me regardait fixement.
Florian Azoulay, vous commettez en scène avec Xavier Gallet 2 grands romans de Pierre Loti, Fantôme d'Orient et Asiadé, qui sont 2 archétypes du roman orientaliste. Cet Asiadé dont il tombe amoureux, qui est-ce ?
Il s'agit d'une jeune femme qui vit dans un harem et qu'il rencontre à l'occasion d'une mission qu'il fait en tant que marin en arrivant à Istanbul. Et dans beaucoup de romans de Loti, il y a ça, et c'est ce qui en fait d'ailleurs une instance tragique. Les bateaux arrivent dans un port et on ne sait jamais quand va se terminer la mission. Et pendant ce temps, bien les marins doivent vivre. et avec toujours suspendu au-dessus d'eux cette épée de Damoclès du départ. Et bien dans Asiadé, il va rencontrer cette femme et il va tomber amoureux d'elle juste par le regard, et puis il va se mettre à apprendre la langue et il va se déguiser en musulman. Voilà. Notre adaptation, On mêlant Fantôme d'Orient et Asiadé, raconte en fait le retour du narrateur, le retour de Loti après des années d'Istanbul. C'est la métaphore d'un voyage, d'un retour dans la mémoire.
Je m'approche. Un peu de vent se lève, semant sur ce pays des morts des gouttes de pluie fouettante. À l'orientation de la borne, je sais la position du corps chéri qui est enfoui sous la terre rousse, et je m'étends doucement et j'embrasse cette terre au-dessus de la place où doit être le visage mort. Tu comprends que je t'aime, Asiadé, puisque j'ai fait pour te retrouver ce long voyage.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce retour dans la mémoire, Florian Azoulay?
Avec Xavier Gallais, on est, je crois, passionné par les dramaturgies où se mêlent les différentes temporalités. Parce que je pense qu'on est, et je crois que Xavier Gallais dirait la même chose, profondément entouré des fantômes du passé. Et finalement, vivre au présent, c'est vivre avec la mémoire, enfin, qu'on a des choses. Donc, c'était logique vraiment pour nous de mêler ces deux romans. Et il y a en plus dans le récit de cet amour, la beauté de cette rencontre. Elle est jeune, il est jeune, c'est un marin. Enfin, c'est tout le récit magnifique d'un amour pur, idéalisé. Et Fantôme d'Orient, c'est un chant funèbre. Et donc, on a voulu mêler ce chant grave et en même temps ce chant d'amour léger. Il n'y a rien de lugubre dans la mort d'Asiadé. Pierre Loti, cet auteur que beaucoup croient connaître, dont on a entendu le nom, on sait qu'il y a une très belle maison à Rochefort, un auteur qui peut faire polémique, etc., etc. C'est bien de faire entendre à nouveau les textes, de les faire découvrir peut-être.
Un auteur, Pierre Loti, Florian Azoulay, qui est parfois un peu moqué, parfois justement décrit comme trop orientaliste, avec des images un peu clichés sur l'Orient, sur le monde arabe. Comment est-ce que vous avez pris en compte ces aspects de son écriture ?
Je crois que si on s'en moque, c'est parce qu'on comprend pas, en fait, la personnalité de Loti. Loti, c'est un dandy pour qui le monde réel, enfin, est absolument insupportable. Il veut vivre dans un monde de souvenirs qu'il idéalise. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation. Il sublime un peu le monde. L'orientalisme est souvent lié à l'idée d'une langue un peu boursouflée, de parfums capiteux, de choses lourdes. Or, il y a une économie dans la description, un lexique très précis, mais souvent un peu répétitif, entêtant d'une certaine façon.
Des personnages à turbans longent les murs. Un tournant de rue, très étroite la rue, très obscure. Un groupe qui arrive, un groupe de 5 ou 6 femmes chaussées de babouches qui ne font pas de bruit. 2 eunuques les précèdent armés de bâtons, les éclairant avec de grandes lanternes anciennes qui font danser leurs ombres sur les pavés et les murs. Je me suis égaré au cœur du quartier des harems.
L'orientalisme de Loti, c'est pas du tout un orientalisme bourgeois, chargé de gros bijoux, de ceci, de cela. Il y a une sorte d'épure absolument incroyable.
Le fantôme d'Asiadé, mise en scène de Florian Azoulay avec Xavier Gallais. Olivier Pie, est-ce que vous avez le temps d'aller dans le off en tant que directeur? J'imagine que non. Je vous pose quand même la question, mais j'imagine que non.
Non, pas pendant le festival, mais dès que le festival se termine, puisque le off continue 2-3 jours, alors là j'y vais avec grand plaisir, voir jouer Xavier Gallais ou Philippe Girard qui joue le rôle de Malraux. J'ai déjà pris mes places et c'est pour moi un moment important. Il y a bien évidemment des très belles choses dans le off. Mais il y a aussi de plus en plus de choses qui sont du divertissement de très mauvais goût et qui, à mon avis, sont pas du tout l'idée que Villars pouvait avoir du théâtre populaire.
Mais est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus ?
Pas du tout.
C'est un espace de liberté. Chacun arrive avec son spectacle et quelles que soient les conséquences.
C'est un espace de liberté, si on veut le voir de manière positive, ou un grand marché dérégulé, quand on le voit de manière plus inquiétante.
Autre spectacle du Hof, magnifique, je vous l'assure, à la Manufacture, où il est question de mémoire, Final Cut, de et avec Myriam Sadoui.
Quand ma mère est morte, j'ai trouvé des lettres chez elle qui m'étaient adressées, qu'elle ne m'avait jamais remises, dont elle ne m'avait pas parlé, mais qu'elle avait archivées dans une enveloppe sur laquelle elle avait inscrit « Père de Myriam ».
Bonjour Myriam Sadoui.
Bonjour.
Votre spectacle est un récit autobiographique, celui d'une femme, de mère italienne et de père tunisien, que vous n'avez jamais connu.
En effet.
Tout est vrai.
Tout est vrai dans le spectacle.
Quelle a été cette histoire ?
Eh bien, disons, ce qu'on voit dans le spectacle, c'est la longue enquête que j'ai menée pour mettre à jour les dénis, les silences, la rupture totale avec mon père, bien sûr, et toute sa culture. Puisque quand mes parents sont séparés, j'avais 3 ans. Et à partir de là, il y a une vraie rupture avec mon père.
Sadoui est votre nom, mais Sadaoui est votre premier nom.
Alors, c'est ce que j'explique dans cette enquête. C'est qu'effectivement, ma mère a fait franciser mon nom. Donc selon la loi du 25 octobre 1972, que j'énonce dans le spectacle. Et ceci dans un double mouvement chez elle, celui de continuer de rayer mon père de la carte et en même temps de m'éviter une assignation dans la société française.
Parce qu'elle avait souffert d'être étrangère et elle voulait pas que vous le soyez ?
Absolument. Ma mère a été vraiment persécutée par sa famille pour avoir aimé mon père qui était un Tunisien. Et par ailleurs, quand elle arrive en France, quand ma famille maternelle arrive en France, on est dans les années 60, en pleine décolonisation. Et effectivement, on est encore pendant la guerre d'Algérie.
Mais c'est très violent ce que vous racontez, parce qu'on vous interdit de parler arabe, mais on vous interdit aussi de parler italien.
Tout à fait. Ma mère, comme je le dis dans le spectacle, était paranoïaque. Puisque, hélas, elle finit ses jours à l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, elle captait de façon très fine la demande implicite qui était posée pour s'intégrer. Donc, quand elle m'interdit de parler italien, quand elle m'interdit de parler arabe, enfin, elle-même ne prononce plus un mot d'italien, d'arabe, elle veut absolument qu'on s'intègre et qu'on soit plus français que la France.
C'est un récit donc autobiographique, Myriam Sadoui, mais c'est aussi le récit d'une époque. Et c'est là où c'est passionnant, votre spectacle, c'est que les deux se mêlent, et c'est cette époque de la fin de la colonisation, de l'indépendance de la Tunisie. Est-ce que cette histoire que vous avez vécue serait transposable aujourd'hui, en 2019 ? Pas forcément.
D'abord, ce qui me semblait important, c'était de... Vous voyez, j'ai pas besoin de raconter ma vie sur un plateau. C'était plutôt le sentiment, surtout avec la montée des nationalismes, la montée du Front National, même si je vis en Belgique où il y a aussi une montée de l'extrême droite, enfin dans toute l'Europe. Donc il me semblait que c'était... que dans mon histoire personnelle, il y avait une connexion avec ce qui se passe aujourd'hui. Et le fait que l'histoire personnelle de tout le monde est connectée à l'histoire qui nous entoure. Donc j'ai connecté effectivement l'histoire de mes parents, l'amour de mes parents, la violence de leur séparation, la dénégation de mon père, de mon nom, de toute ma part d'origine tunisienne, en connexion avec cette période de la décolonisation, du désir d'indépendance, de la puissance coloniale française, du désir de la République d'intégrer au prix de désintégrer.
Alors cette histoire-là, c'est vrai, peut quand même résonner, vous le dites aujourd'hui, parce que le racisme et la peur de l'autre existent toujours et plus que jamais aujourd'hui.
Tout à fait.
Et en vous écoutant, on comprend bien que ça ne naît pas de rien. Dans le spectacle, vous citez Jules Ferry, qui affirme que le devoir des races supérieures, donc les Blancs, est de civiliser les races inférieures.
Oui.
Ou encore Victor Hugo, le grand Victor Hugo, héros national et international de la France, qui affirme « l'Afrique n'a pas d'histoire ». Donc finalement, on comprend qu'il y a une sorte de gang idéologique qui a été constitué au XIXe siècle.
Et qui perdure,
que tout un chacun a du mal à extirper.
Prenons le texte de Victor Hugo. Au XIXe siècle, « l'Afrique n'a pas d'histoire ». On se retrouve quand même en 2007 avec Nicolas Sarkozy qui arrive à l'université de Dakar et qui dit l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est, le discours est écrit par Gwenno, mais donc il est en ligne droite d'une position 19e-iste qui n'est pas encore analysée d'une certaine manière.
Vous dites le viol commence souvent par le langage.
C'est une phrase justement d'Achille Mbembe. Dans les rapports où la partie n'est pas égale, le viol souvent commence par le langage, qui est extrait d'un texte d'Achille Mbembe, qui est une réponse au discours de Nicolas Sarkozy à Dakar.
Donc il est important de mettre des mots sur les histoires et sur l'histoire.
Tout à fait. Au fond, tant qu'on reste dans le silence, dans le déni, dans l'aveuglement, ou dans la volonté d'aveuglement, on ne peut pas avancer. Je parlais hier à quelqu'un au sujet du spectacle en disant que, en rappelant ce qui s'est passé en Afrique du Sud, quand il y a eu la fin de l'apartheid, les commissions Vérité et Réconciliation, tous les témoignages étaient traduits dans les 140 langues qu'il y a en Afrique du Sud. Donc l'idée, c'est pas seulement de parler, mais aussi d'être entendu. Et donc, ce travail commence, j'en suis absolument persuadée, et que mon travail fait partie d'un champ qui commence à vouloir faire émerger une parole de ce trauma colonial dans le souci quand même qu'on arrive à vivre ensemble.
Alors vous portez, Myriam Sadoui, ce double récit, donc autobiographique et historique, de façon très sobre, avec une très très belle précision scénique, pour finir sur une photo, celle de vos parents sur un bateau qui tente Tunis, enfin c'est ce que l'on imagine, photo découverte à l'âge adulte, quand vous décidez de partir en Tunisie pour aller sur la tombe de votre père que vous avez finalement retrouvé, mais il est mort, et dans la famille paternelle. L'histoire est donc bouclée pour vous. Comment s'est imposé le besoin d'en faire du théâtre ?
Quand je suis allée sur la tombe de mon père la première fois, c'est-à-dire j'ai 40 ans, je rencontre ma famille paternelle, tout est fini puisque mon père est mort, ma mère est morte, donc il reste des trous dans l'histoire, bien sûr. À ce moment-là, je suis metteur en scène, auteur, donc... je suppute dans une sorte de clair-obscur qu'un jour je ferai quelque chose avec ça. Et puis c'est vraiment la montée du racisme autour de moi, des discussions avec des jeunes gens, en me disant mais au fond rien ne bouge. Et peut-être, pour le dire comme Anna Arendt, dans les sombres temps, dit-elle, nous avons moins besoin de concepts que de la lumière vacillante que font régner certaines personnes à travers leur histoire et leur vie. Et donc je me suis dit, peut-être que cette longue enquête que j'ai menée, et aussi le désir d'assumer, et le désir de comprendre, au sens justement de quel est le lien avec l'histoire, quelle était la construction qui a fait que ce racisme à l'intérieur de ma famille a existé, qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré il y a quelques jours une très brillante jeune femme philosophe irakienne, qui m'a dit à la fin de mes études en France, je suis partie à Londres, parce que là je savais que je pouvais faire une carrière en France, pas avec mon nom et mon visage. Donc je pense que c'est très important de raconter des histoires comme ça, d'essayer de détendre au fond et de passer au 21e siècle, on va dire.
Enfin.
Enfin.
Myriam Sadoui, merci. Votre spectacle Final Cut est à voir à la Manufacture jusqu'à la fin du festival. Merci Olivier Py. Rendez-vous donc en 2020. Je ne vais pas vous demander un thème, un scoop, il est beaucoup trop tôt, mais nous serons au rendez-vous en 2020. Est-ce qu'il y a quand même des thèmes dans la société aujourd'hui qui vous interpellent, vous en tant que directeur, mais aussi en tant qu'auteur ou en tant que metteur en scène ?
Ce qui compte surtout, c'est que ce soit les artistes. Moi, je ne tiens pas à ce que tous les artistes parlent du Olivier Py, bien au contraire. Pour tout vous dire, j'aime particulièrement les spectacles qui ne me ressemblent pas et qui sont le plus loin possible de moi. C'est là que je suis vivifié, c'est là que je suis inspiré. En tant que directeur et en tant qu'artiste, je suis profondément inspiré par les 50, 45 spectacles que je peux voir dans cette programmation. La rencontre avec ces artistes m'apporte énormément. C'est à eux que revient le véritable lien avec le public, et c'est eux que je remercie.
Et il y a une suite d'une édition à l'autre. Est-ce qu'on peut, comme ça, penser que le monde se raconte d'une édition à l'autre, d'un festival à l'autre ?
J'ai vraiment l'impression que d'année en année, l'idée qu'à Avignon, on pourrait faire un débat d'utilité publique sur un thème, mais sur des thèmes qui reviennent, d'ailleurs, la crise migratoire ou la place des femmes, c'est pas des thèmes dont on va se débarrasser d'une édition à l'autre, au contraire, ou l'écologie, par exemple. Je crois que ça s'est renforcé, parce que... comment vous dire ? Il y a toujours des gens qui pensent que les poètes, on n'en a pas besoin. Ce que je sais, c'est que le peuple, lui, réclame toujours des poètes.
Merci Olivier Py et bravo de vive voix avec Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain, toujours en direct de l'Hôtel d'Europe au Festival d'Avignon.